Bonjour, voici la suite du premier épisode avec Michel Dignard. Un des domaines qui nous touche chaque jour et qui est essentiel à toute l'humanité, c'est le monde de l'agriculture et des fermiers. Un univers complexe, important et souvent méconnu par ceux qui ne sont pas du milieu. Oui, on sait c'est quoi une ferme, mais savons-nous vraiment comment tout fonctionne dans une ferme? Personnellement, j'en ai aucune idée. Plongeons ensemble dans cet univers et apprenons aux côtés de diverses personnes du domaine. Je vous présente GoFM dans le pré. Aujourd'hui, je suis avec le président de l'Union des cultivateurs franco-ontariens, Michel Dignard, qui est revenu nous visiter aujourd'hui. Comment ça va?
Ça va très bien aujourd'hui encore. La journée n'est pas si pire, fait qu'on ne se plaindra pas.
Ben oui, faut pas se plaindre. Puis, tu es venu nous visiter une fois, mais juste pour te réintroduire pour ceux qui ont commencé avec ce podcast ici, t'es qui toi?
Michel Dignard, vice-président de l'Union des cultivateurs franco-ontariens. J'ai été producteur laitier pour 46 ans. Producteur de d'œufs pour 3 ans, lapin de chair pendant 12 ans, bleuets, framboises, puis abeilles. Puis je suis en grande culture comme c'est là. Fait que 1200 arbres de grande culture.
1200?
Oui.
Ça doit être beaucoup de maïs puis tout ça à récolter.
Ça fait un printemps et un automne très occupé. Fait que les nuits sont courtes, mais c'est correct, on a du fun.
Ben oui, ça doit être court parce que, tu sais, par le temps que tu ramasses tout, puis tu mentionnes que tu es vice-président de l'Union des cultivateurs franco-ontariens aussi, c'est beaucoup de temps alloué à beaucoup de différents endroits, puis justement...
Le printemps puis l'automne, mettons que je m'occupe un petit peu moins des organisations, parce que c'est vraiment notre temps occupé, mais durant l'été et l'hiver, j'ai plus le temps de me concentrer pour... Je fais partie de diverses organisations, fait que j'ai le temps de faire ça, mais pas le printemps puis l'automne.
Puis aussi, comment c'est de les maïs, le soya puis tout ça, c'est comment que la récolte, comment ça fonctionne un petit peu?
Ben, ce printemps, ça a bien, c'était tough cette année parce qu'il mouille tous les trois jours.
Bon,
il faut se battre pour aller pouvoir travailler nos champs. Cette année, je pense, c'est une des années qui était le... que tu vois vraiment l'avantage du drainage souterrain puis drainage de surface à cause que quand il mouille, il tombe un pouce, deux pouces, trois pouces d'eau. Mm-hmm. Fait que, autant le drainage de surface que souterrain, il aide bien. Jusqu'à ce temps, la région en brun, Russell, Gassimil, on s'en tire pas si pire. Si on va au bout de Saint-Isidore, va au bout de Hamon, Alfred, c'est pas la même histoire. J'ai été à une réunion la semaine passée dans le bout de Orangeville, puis j'ai parlé des producteurs du sud de l'Ontario. Il y a des producteurs, ils ont 500 acres, 1000 acres qui n'ont pas semé. Eux autres ont eu des 6 puis des 8 pouces d'un coup. Cette année, ça va être vraiment... Ça va être assez dur.
Ça va être assez dur de remplir le silo.
Oui.
Puis en parlant de silo, là, j'ai vu des images de ta ferme, puis tu as un magnifique silo.
Ouais, on fait partie du parcours Pop Silo. Ça permet au monde de la ville, puis n'importe qui, ils se promènent. Il y a beaucoup de monde à Montréal qui viennent, puis ils peuvent se poser des questions sur l'agriculture. C'était ça le but du circuit, faire connaître l'agriculture à du monde de la ville, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de monde, ils n'ont pas personne qui connaisse en agriculture, fait que c'est assez le fun. Le monde arrête, puis on est en train de jaser, ils posent toutes sortes de questions, puis pas une question qui n'est pas bonne, puis le monde sont bien surpris de comment ça marche.
Et ben là, tu mentionnes, ils sont surpris comment ça marche. Là, faut que je sache comment ça fonctionne.
C'est que si tu écoutes, ils parlent, mettons, que l'agriculture, on détruit l'environnement. Si on veut ils parlent de l'engrais chimique, du maïs modifié. Mais quand tu leur expliques que, à cause que la génétique du maïs, comment c'est rendu, on met moins d'herbicides, on met moins de fongicides. On met moins d'engrais. L'engrais est mis plus à différents temps. Il y a bien moins de lessivage. On se sert plus de la technologie. Les planteurs, les machines pour travailler le sol, au lieu de travailler à 6 pouces, on travaille à 3 pouces. Tu as plus de matière organique à surface. Tu as plus de matière organique à surface. Tu as moins, quand il mouille beaucoup, tu as moins de lessivage d'un fossé. Puis quand tu expliques, mettons que moi, quand j'ai commencé, on retourne 40 ans en arrière, on mettait 4 livres d'une sorte d'herbicide. C'était résiduel dans le terrain pendant 8 mois. Là, à cette heure, on met une demi-livre, un demi-litre ou un litre à l'autre, puis c'est pas résiduel. Mm-hmm. Fait qu'on a coupé notre engrais de 50%, les herbicides de 50%. La génétique a fait monter les rendements de maïs puis de soya de beaucoup, puis avec le même engrais. Ça fait que là, quand le monde commence à réaliser ça, puis on leur dit, c'est, moi, ma vie, c'est l'agriculture, c'est les grandes cultures. Fait que pourquoi que je mettrais plus d'engrais dans le terrain ou plus d'herbicides? C'est moi qui paye. C'est moi qui perds. Mm-hmm. Je n'ai pas plus cher au bout. Ah, ben, j'ai pas pensé à ça. Moi, l'exemple, je leur donne, t'as une auto, tu t'en vas travailler. Tu vas-tu la crasher tous les mois? Il me regarde, ben non. Fait que moi, pourquoi? Moi, dans l'agriculture, là, c'est minimum, c'est 25 à 41. Puis là, quand ta relève en bac, mais là, c'est 50, 101 que tu veux ta relève, puis tu as plusieurs générations. Ça fait que c'est pas mon avantage de maganer mon sol pour que dans 10 ans, 20 ans, j'ai plus rien à mettre dessus. Moi, le premier bénéficiaire, c'est l'agriculteur, parce que tu veux pas empoisonner ton sol. Puis comme le gars qui travaille en ville, il veut pas casser son char tous les mois. Fait que là, quand tu leur dis ça, ils disent « Waouh, ça a de l'allure. » Fait que là, ils réalisent « Ah, ouais, OK, d'abord, c'est vous faites une bonne job. » Puis les machines viennent plus performantes. Là, les récoltes, le blé d'hiver a été fait. Excellente, ces récoltes-là. Le blé de printemps, avec l'appui qu'on a depuis 2 semaines, ça va pas bien. On espère... Moi, j'ai pas de blé, mais j'ai des voisins qui l'ont. Ils espèrent avoir une semaine de beau temps, chaleur, puis du vent pour qu'ils peuvent récolter leur blé.
Ben oui, parce que si... il y a beaucoup de pluie, ben le terrain devient trempe, il y a de la boue puis tout ça, puis tu veux pas emmener nécessairement les grosses machines, l'artillerie lourde non plus sur ton terrain pour l'abîmer.
Non, parce que quand c'est trop trempe, tu amènes ta grosse machinerie ou petite machinerie, tu fais de la compaction. Si tu fais de la compaction, l'eau rentre plus dans le terrain, fait que t'es pas avantageux. Fait que là, comme c'est là, le blé d'hiver a été fait, les récoltes ont été faites, le monde sont assez satisfaits. Le blé de printemps, ça va se faire dans les prochaines semaines. Ben ça devrait être fait, mais là, il faut qu'il lâche mouillé. Après ça, la date critique pour les agriculteurs, c'est le mois de septembre. Il ne faut pas qu'il y ait un gel. Ils appellent ça un « killer frost » en anglais. Il ne faut pas qu'il y ait ce gel-là au mois de septembre parce que ça va arrêter ton plan de maïs de maturer. Là, tu vas perdre beaucoup, beaucoup de pesanteur. Fait que ils donnent beau. Fait que c'est tout le temps en pleine lune. 3 jours avant en pleine lune, c'est là que ça risque de gel. Si on peut se clairer de ça du mois de septembre, pour la région alentour aussi, ça va être pas pire. Sinon, on parle de 40% moins de rendement.
Puis là, tu as mentionné du blé d'hiver.
Oui.
Il y a du blé qui pousse en hiver.
C'est que tu sèmes ça au mois de septembre.
OK.
Septembre à peu près. Là, il va sortir de terre. Il va faire à peu près 5 pouces. Là, l'hiver arrive. Là, il va tomber dormant. Puis là, le printemps, quand ça arrive, du moment qu'il fait chaud, il se réveille puis il commence à pousser. Fait que ta récolte est à peu près 3 semaines plus vite que le blé de printemps.
OK, c'est pour ça que des fois, quand que toute la neige est fondue puis tout ça, tu regardes les champs de blé puis tout ça.
Pouf, ça passe vite.
Ils sont déjà là.
Oui. Puis en faisant ça, t'empêches l'érosion aussi. Parce que ton 5 pouces de blé qui a sorti, ça l'empêche, quand il mouille, ça fait moins d'érosion. Quand la neige fond, ça garde la neige là pour tenir ton terrain humide, pour que quand le printemps arrive, que c'est pas sec, t'as pas rien d'infossant, c'est mieux pour le terrain.
OK. Ah, c'est intéressant. Puis je voulais revenir sur un point que tu as dit tantôt, que tu n'as pas abîmé le sol, tu sais, pour la relève, pour que ta ferme dure le plus longtemps possible. Puis c'est là-dessus que je voulais m'adresser un petit peu plus. Parce que dans le dernier épisode, on a parlé à toi plus Michel Dignard, apiculteur, fermier, agriculteur, etc. Mais là, je voulais vraiment m'adresser à toi en tant que vice-président de l'UCFO ou Luc Faute. C'est la relève. On en parle beaucoup, c'est de moins en moins présent. On voit des enfants qui ont la ferme générationnelle, qui y est passé de, tu sais, ça fait 2, 3, 4, 5, 6 générations qui sont sur cette ferme-là et qui finalement sont comme, bon, ben, moi, ça m'intéresse pas, on vend la ferme.
Oui, il y en a de ça, mais je regarde juste dans notre région, il y a beaucoup d'agriculteurs que la relève est là.
OK.
Il y a des places que oui, mais il faut réaliser qu'on s'en tourne 50 ans en arrière, 60 ans, les familles, il y avait 4, 5, 10 petits. À ce temps, il y a un ou deux enfants. Ça ne veut pas dire nécessairement que ton enfant va vouloir aller dans l'agriculture. Si tu en as 5, 6, il va probablement en avoir un qui va être intéressé. Mon voisin est en train de se bâtir une nouvelle étable laitière, il va dépenser 5 millions. Ses deux enfants sont intéressés.
5 millions?
Oui.
Wow!
Mais ses deux enfants sont intéressés. Fait que là, lui, go for it. Là, il y a de la préparation fiscale parce que là, il va avoir du transfert, mais c'est ses enfants qui vont prendre la dette. Il commence à gérer. Un autre de mes amis, son gars, il embarque sur la ferme. C'est un transfert qui va se faire. Il y en a d'autres. Oui, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est plus dur parce que les valeurs ont beaucoup augmenté.
Oui, parce que dans le temps, c'est comme tu disais, il y avait peut-être 10 enfants ou 6 enfants par famille. Puis, il allait, quand il était jeune, travailler sur la ferme.
Fait oui, que, c'est ça.
Il y en avait au moins un que lui, il était comme « OK, moi, c'est ça que je veux faire de ma vie » ou une qui voulait faire la même chose. Tandis que là, maintenant, c'est « OK,
un ou deux enfants, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est un de ces deux-là qui vont voir aller sur la ferme.
C'est ça.
Mais le gros problème, c'est que les valeurs de terrain de l'entreprise ont beaucoup augmenté. Fait que la nouvelle génération qui embarque, oui, c'est extrêmement important qu'elle aille au collège et à l'université pour côté financier, côté gestion, c'est ça qui s'en vient le plus important.
OK, donc maintenant, toi, parce que souvent, on imagine que les fermiers, pas pour être méchant, mais c'est un stéréotype qu'il faut casser aussi, oui. Que les fermiers, souvent, ils n'ont pas d'éducation, mais c'est faux parce que quand tu parles à des fermiers, souvent, trois quarts du temps, genre, ils sont plus instruits que la grande majorité des gens.
Ah oui, parce que ça, c'est vrai, c'est un stéréotype qu'il faut enlever dans la tête. Puis que tu vois une grosse machine, un tracteur, puis il y a du GPS, tu es précis à un pouce quand tu vas semer les champs. Tu peux avoir une grosse machine, mais il y a un méchant système d'électronique dans le tracteur, dans ta moissonneuse-batteuse. Comme je te dis, mon voisin, là, lui, il se met deux robots ou trois robots de traite. Mais là, c'est plus okay. Travailler avec tes bras. Il faut travailler avec ta tête. Il faut vraiment. Puis là, la valeur est 5 millions pour l'étable et les robots. Le côté gestion, là, c'est extrêmement important. Mm-hmm. Fait que dans le temps, comme tu disais, ouais, le plus vieux s'en allait à la ferme, puis go, ça faisait. Travailler fort de tes bras, ça va marcher. Non, ça ne marche plus de même. Puis le jeune, va à l'université, va au collège. Il y a des choses de gestion, des cours tout le temps. Puis même les agriculteurs qui sont déjà là, comme moi, ma femme, mes amis, tous les hivers, on prend des cours pour se rafraîchir, les nouvelles technologies. Quelqu'un, tu es derrière ton ordinateur, ben moi, j'ai un ordinateur dans mon tracteur, dans ma combine. Non, c'est pas vrai. Il faut vraiment que tu sois à fine pointe pour aller chercher. Parce que en agriculture, les marges, ils baissent tout le temps, comme n'importe quelle compagnie ou secteur. Fait qu'il faut s'y aller chercher. Les moindres détails que tu peux aller chercher, les moindres scènes que tu peux aller sauver, ça va, au bout de la ligne, ça va compter.
Ben oui, puis surtout en ce moment, avec l'importation aussi qui arrive au pays d'autres pays, justement, tu sais, on importe beaucoup de choses, mais là, les agriculteurs, eux autres, perdent là-dedans parce qu'ils sont comme, OK, ben là, s'ils importent, ça leur coûte moins cher, ben nous autres, il faut baisser nos prix un petit peu aussi, puis...
Oui, mais l'agriculteur, il y a bien des prix comme en grande culture, tu es dépendant du marché international.
Okay.
Que, oui, il y a du maïs des États qui s'en vient au Canada parce que c'est le meilleur marché, parce que là-bas, ils subventionnent. Ici, le gouvernement subventionne bien moins que d'autres pays. C'est juste que, oui, faut vivre aussi. On a une meilleure qualité de vie que dans un pays où il y a bien de la nourriture qui vient. Mais il faut juste se rappeler que la pandémie l'a montré. Les pays vont se soutenir aux autres, vont se nourrir aux autres avant de nourrir les autres. Fait que c'est bien important. Puis l'agriculteur, ça a l'air qu'il fait de la grosse argent, mais c'est comme une compagnie. Là. Ta marge, oui, tu roules des gros chiffres, mais ta marge, il faut vraiment que tu gères comme il faut parce que...
Ça peut descendre assez vite.
Oui, comme cette année, les prix de maïs sont descendus, les rendements sont, ils seront pas ce qui était l'année passée, mais c'est pas nous autres qui sommes responsables des prix, c'est la bourse de Chicago. Parce qu'aux États-Unis, ils ont une très bonne récolte supposée. Fait que là, les prix, ils ont descendu comme ça n'a pas d'allure. Fait que c'est important de... Tu sais, comme cette année, on a perdu 125$, 150$ la tonne de le maïs. Ça veut dire que ta petite marge, c'est pas mon avantage d'avoir mis 100$ de plus d'engrais chimiques. Là. Je mets qu'est-ce que mon plan a besoin et je mets pour maintenir ta réserve dans ton sol. Tu cherches pas à faire ça. Fait que les bons producteurs, ils ont calculé... L'hiver, quand les écoles sont finies, ils disent « Tu fais la belle vie, tu n'as pas rien à faire. » Non, tu rentres tes chiffres, tu calcules qu'est-ce que tu as fait de bien, qu'est-ce que tu as fait de mal. Puis là, ben OK, printemps s'en vient, où est-ce que je peux sauver, je peux améliorer? Il y a la règle des 5%, 5% moins de dépenses, 5% d'efficacité, 5% plus de revenus. Au bout de la ligne, ça donne 20%. Tu essaies de faire ça.
Tu sais, tu viens de mentionner des chiffres, puis tu m'as perdu. Moi, honnêtement, là, avec les chiffres et tout ça, je suis pas tant bon, là.
Ouais.
À l'école, le mathématiques, c'était pas ma matière préférée. Mais donc, c'est quoi cette règle-là de 5%?
C'est, ils disent, c'est, je sais pas quelle personne qui a inventé ça. Le but de ta compagnie ou de ta production, c'est que tu baisses tes coûts de 5% par mm-hmm. année. Tu essaies de monter ton efficacité de 5%. Puis ton marketing que tu fais, tu l'essayes de l'augmenter de 5% à ta moyenne. Fait que mettons, ta moyenne l'année passée était à 250 $ la tonne vente. Si tu es capable de jouer puis aller chercher 5% de plus, c'est bon. Mais cette année, oublie ça, là, à cause des marchés internationaux, on est parti de 250 à 180, à matin, il est à 184 $ la tonne. Fait qu'on a pris une drop de 100 $ la tonne facile.
Wow.
Mais là, tu vas aller chercher ton 5% d'efficacité. OK. Cette année, il y a des champs, au lieu de passer deux fois avec ma machine pour préparer le temps, j'ai passé une fois. Mais ça me coûte 3 litres à l'auque passer à la machine. Mais 3 litres du diesel à 1,50 $, j'ai sauvé 4,5 $ de l'auque. Mais 4,5 $ fois 12 cents, j'ai sauvé 6 000 $.
OK.
Fait que tu sais, ça paraît pas gros. La combine, elle va se promener à les champs, elle prend 9 litres à l'auque. Mais si ma table est assez grosse, la température est belle, puis je peux rouler un petit peu plus vite. Mais si je sauve un litre à l'auque, encore là, ça ne paraît pas, mais 1,60 $ le litre, ça compte.
Ben oui, c'est certain. Puis, tu sais, aussi avec le prix du diesel qui augmente ou qui descend, ça joue aussi dans ta marge.
Oui. Tu sais, comme l'année passée, on a acheté du maïs, du soya de différentes compagnies. Mais là, cette année, tu dis un coup qu'une compagnie se dit « OK, si tu achètes tout de moi, je te donne 25% de discount. » Ben, j'avais 20% l'année passée, mais je vais aller chercher un 5% de discount sur ma semence. Fait que c'est tout des calculs que l'agriculteur faut qu'il fasse qui ne paraît pas. C'est comme quand tu bâtis une maison. Tu bâtis une maison, tu as à élevé, là. Ah, ça a bien été. Mais en arrière de ça, il y a eu des plans, il y a eu des permis à aller chercher. Puis d'autres, c'est ça. Durant l'hiver, c'est... Ils disent qu'on fait à Belleville, mais c'est tout ce papier-là, ce marketing-là, cette planification-là qu'on fait.
Puis, donc, c'est ça, parce que pendant l'hiver, comme tu as mentionné, tu as des cours à faire pour arriver à la nouvelle technologie ou juste te dire, OK, cette année, je veux essayer de le faire comme ça. Donc, tu vas faire un cours pour te rafraîchir la mémoire ou apprendre sur le sujet en général.
Oui, parce que si on se donne la peine, il y a beaucoup de causes. Dans les compagnies, que ce soit financiers, herbicides, engrais, semences, dans les animaux, les gars calculent, on a eu des grosses chaleurs. Mais je peux te gager que les vaches aujourd'hui, ils ont eu moins de misère à passer à travers de ça que le monde en ville. Parce que la côté ventilation, les gars, la ventilation est calculée, le débit d'air, tout est calculé en proportion de ça.
Le débit d'air qu'une vache.
Que la vache, elle va prendre à travers de l'étable. Comme moi, j'ai fait du lapin pendant 12 ans. J'étais en France pour apprendre ça. Le lapin a besoin de beaucoup d'air, mais pas de courant d'air. Il a besoin d'un changement d'air beaucoup, mais jamais sur le lapin.
OK, donc là, il faut que tu fasses un système de ventilation pour apporter de l'air, mais qui ne va pas sur le lapin.
C'est ça. Puis ceux qui ont des vaches, eux autres ont besoin de beaucoup d'air pour leur aider à enlever l'excès de chaleur qu'ils ont. Ça fait que là, le monde a mis des ventilations naturelles, mais ils ont mis des grosses fans au sur le top que quand il fait bien chaud, ces fans-là partent pour donner un courant d'air à tes vaches. Tu sais, la poule, c'est pareil. Elle produit sa propre chaleur, la vache produit sa propre chaleur. Mais tu as besoin d'un système pour évacuer le trop de chaleur qu'il y a. Mais ces animaux-là, ils ont besoin de beaucoup d'air qui passe à travers. Fait que là, il faut que tu calcules, OK, tu as tant d'animaux, mais selon la grosseur de l'animal, ça dit que tu devrais mouver tant de pouces cubes d'air.
Mm-hmm.
Bon, mais là, il faut être avancé en proportion. Parce que cette année, quand tu as fait 41 d'humidité pendant une semaine, là, si tu n'avais pas une bonne ventilation, ta vache, elle va perdre beaucoup de lait.
Ben oui.
Ta poule, elle va pondre un œuf de moins. Mais si tu as 20 000 poules puis tu perds un œuf, ben c'est 20 000 œufs. Fait que c'est ça que le monde ne réalise pas. Puis là, ton alimentation d'un poule ou d'un vache, faut que tu l'adaptes un peu.
Mm-hmm.
Puis là, l'eau, c'est important. La qualité d'eau. La plupart des agriculteurs vont analyser leur eau minimum une fois par année. Parce que tu veux faire sûr que ta qualité d'eau est bonne pour que quand il fait chaud ou il fait froid ou c'est normal, que ton animal a une bonne eau fraîche pour boire, pour être en santé.
Wow, OK. Ça m'éblouit le montant de petites affaires minutieuses que les agriculteurs, les fermiers, les éleveurs, etc. passent à travers juste pour s'assurer, OK, regarde, cette année, il faut faire telle affaire pour améliorer, puis il faut couper des coûts là, parce que j'avais sorti cette statistique-là de Statistique Canada. Durant la pandémie, tu l'as mentionné tantôt, que le pays prend souvent les choses de son propre gré, puis ben, de son propre pays, puis tout ça pour s'alimenter lui-même. Puis ça démontre qu'en 2022, donc durant la pandémie, le revenu agricole était de 12,8 milliards de dollars partout au Canada, comme en général.
OK.
Puis il est descendu en 2023 à 8,9 milliards.
Ouais.
C'est des chiffres, là. C'est 4 milliards qui a disparu, là.
Fait que là, c'est parce que quand pendant la pandémie, le monde restait ici.
Oui.
Le monde mangeait. Mm-hmm. Fait que là, ça a créé une demande. Mais quand la pandémie est finie, le monde a décidé de voyager. Si le monde voyage, l'argent qu'il dépensait à en acheter des produits agricoles du Canada, bien, il dépense à aller en voyage. Ça mm-hmm. fait que notre revenu, nous autres, automatiquement, il a baissé. Fait que le monde a pas réalisé que c'est important le local. Parce mm-hmm. que quand tout va bien, c'est comme tu t'en vas sur l'autoroute, ça va bien. Mais quand mm-hmm. il y a un accident en avant, tout arrête.
Ben oui.
Mais là, c'est la même affaire. Quand tout ça a bien été, ça a tout bien été. Mais là, la pandémie est arrivée. On ne sait jamais quand il peut arriver une crise, une guerre, je ne sais pas quoi. Automatiquement, les frontières vont se refermer, puis chaque pays va se nourrir, va se subvenir à eux autres avant d'aller ailleurs, puis qui est normal.
Mm-hmm.
Fait que c'est pour ça que côté agricole, comme tu dis, ça a baissé. Je ne savais pas que ça a baissé tant que ça. Mais c'est ça qui est arrivé. Le monde a pris l'argent qu'il dépensait à le local, manger comme il faut. Ben, oh, je vais aller en voyage. Je vais faire ci, ça fait deux ans, j'en fais pas. C'est espéré que le monde s'en rappelle encore, par exemple, qu'il aide encore.
Ben oui, puis c'est pour ça qu'on mentionne durant la pandémie, tu sais, c'est plate à y repenser, puis tout ça, parce que c'était pas le meilleur temps pour tout le monde, mettons. Puis aussi, mais c'est important de subvenir au local, faut aussi encourager le local, puis subvenir aussi, et puis le local, ben en retour, va subvenir à nos besoins, parce que quand on encourage les fermes locales, ben eux, par la suite, sont comme « OK, mais on va être capable de produire plus de choses. » Puis, il ne faut pas oublier que les agriculteurs, c'est eux qui subviennent à trois quarts de nos besoins essentiels.
Puis, l'agriculteur, quand il fait de l'argent, il réinvestit tout. Fait que s'il réinvestit, il va changer de machine, il va améliorer ses bâtiments, améliorer sa ventilation, mais ça ne paraît pas. Mais toutes ces affaires-là, ça va faire travailler l'économie locale ou provinciale. Fait que c'est pas juste... L'agriculteur, là, s'il fait une année qu'il fait bien de l'argent, bien, il réinvestit garanti. Tu sais, sa machine qui a attendu trois ans pour la changer, là, il va changer. Mm-hmm. Mais ça fait travailler le mécanicien, le gars de pièces, l'alimentation, aussi, le gars, ventilation des animaux. Tu sais, ah ben là, OK, là, cette année, on a eu de la chaleur, j'ai refusé, je demande tout de même une coupe de ventilateur de plus. Une année pas pire, bien, je vais les acheter. Mm-hmm. Ben, l'électricien, il va venir, le gars qui a bâti le ventilateur, il va changer sa grange. Là, il mouille. Mais les compagnies de drainage sont occupées. Mm-hmm. Parce que celui qui n'a pas drainé, là, il dit il va sortir 2 tonnes à l'orgue, moi, je vais en sortir 5. Il va dire waouh, je vais le drainer mon terrain pour l'améliorer, mais pour l'eau. Ça fait travailler ça, ça fait travailler sur le plastique. C'est vraiment. C'est ça, il faut que le monde se rappelle que c'est pas juste pour un an ou deux. Tu sais, l'agriculteur, il y a des années que ça n'a pas bien été. Que des récoltes n'étaient pas bonnes, mais il faut tout le temps regarder à long terme. Si tu veux regarder à court terme, c'est comme les marchés boursiers, laisse faire. L'agriculture, c'est à long terme. Fait que si le monde peut se rappeler que quand ça va bien, encourage ton local pareil. Puis quand ça va aller mal, bien, il va être là.
Mm-hmm.
Parce que si ça va mal au mois de septembre, là, puis t'as pas encouragé ton local, il n'y aura pas de produit pour lui. Là. Mm-hmm. Puis je peux pas, au mois de septembre, je ne peux pas te produire du lapin ou des légumes, je ne peux pas t'y produire. Fait que c'est ça, il faut se rappeler de ça.
Oui, puis aussi, comme tu as mentionné, ben là, à chaque année, c'est quelque chose qui varie. C'est comme le marché boursier puis tout ça. Puis on veut garder les fermes le plus longtemps possible parce que ça coûte cher à acheter. Tu sais, tu mentionnes des affaires depuis tantôt comme pif paf, ça coûte 5 millions. Une nouvelle établière, ça coûte 5 millions. On l'a eu. Puis aussi, tu sais, ben si tu veux changer ta nouvelle machinerie, je suis sûr que ça ne coûte pas 2 cents. Là,
ça a tout monté. Tu sais, comme on dit, le prix des maisons a monté, mais le prix des machines a monté aussi.
Est-ce que tu penses que c'est une des raisons pourquoi qu'on voit de moins en moins de personnes dans le domaine agricole, etc.?
Il y a moins de personnes, oui, mais les fermes grossissent. Parce que les marges baissent, fait qu'il faut tirer sur le volume.
OK.
C'est ça qui arrive. Fait que, on regarde les producteurs de lait, il y a moins de producteurs qu'il y avait 20 ans, 30 ans, mais la production de lait telle qu'elle n'a pas baissé.
OK, parce qu'il y a des machines qui rentrent en compte, puis qui, genre, tu avais besoin de 20 personnes pour produire tant de litres, mais là, grâce aux machines, on en a besoin de 2 personnes pour produire tant de litres.
C'est ça. C'est l'amélioration technologique est là. Les robots de trait sont arrivés. Puis côté alimentation, la génétique s'est beaucoup améliorée. Ça fait que ta vache a doublé sa production. Ça fait que tu as besoin de moins d'agriculteurs, mais ils sont plus gros. Tu perds des agriculteurs, mais ta production, ceux qui restent, faut qu'ils sont vraiment à fin point de la technologie. Gestion sont efficaces au bout. Ceux qui restent sont capables de le faire.
Puis est-ce que toi, en tant que vice-président de l'Union de l'UCFO, est-ce que tu remarques qu'il y a peut-être un manque de personnel des fois qui devient de plus en plus apparent parce que partout, dans pas mal tous les domaines en ce moment, il y a un gros manque de personnel?
Oui, ça c'est vrai qu'il manque de beaucoup de monde en agriculture. C'est pour ça que les travailleurs étrangers viennent parce qu'ils n'ont pas le choix. Mm-hmm. Il y a des cultures que tu n'as pas le choix. Tu as besoin du côté humain pour travailler. Tu ne peux pas juste avoir des robots ou des tracteurs. Encore là, le taux de natalité au Canada, il est quoi? 1,6? C'est pas assez. On est en compétition contre toutes les compagnies, que ce soit l'agriculture, que ce soit les coops, que ce soit les Walmart, c'est tout pareil. Oui, il manque plus de monde.
Est-ce que tu penses, pour ceux qui veulent, mettons, se construire une ferme, tu sais, comme tout débuter, là, comme ça, ils veulent acheter un terrain, ils veulent acheter, puis se faire bâtir un établière ou, tu sais, quelque part, n'importe quoi, là, qui a rapport avec l'agriculture ou juste l'élevage, puis tout ça, les coûts?
Les coûts sont très chers. Parce que si tu t'en vas dans le lait ou dans la poule ou dans des œufs, il y a des quotas, c'est un droit de produire qui te garantit un revenu.
Mm-hmm.
Mais, entre autres, il faut que tu le payes, ça. Que le producteur que j'ai dit qui dépense 5 millions pour un étable, le gars, ça fait déjà 30 ans qu'il est en production puis son père est en production. C'est que ça permet de pouvoir investir ce 5 millions-là. Celui qui veut partir à zéro, il ne pourra pas partir dans le lait ni dans les œufs. Il peut tout de même partir dans le bœuf. Grande culture, il va avoir de la misère. Mais tout le monde dit que c'est parce que c'est trop cher. Je mets au défi n'importe qui de s'acheter un Tim Hortons, un McDonald's, une quincaillerie à zéro. Il n'est pas capable. Il faut que ça soit. Les fermes ont tout été, la plupart du temps, transférées de père en fils ou en fille. Ça va continuer encore. Celui qui veut commencer, il y a des productions qui peut commencer de seul. Il peut faire du jardinage, il peut faire du mouton, il peut faire de la chèvre. Il peut faire du lapin. Tu étais capable de vivre là-dessus. Mais tu as parti comme en grande culture, oublie ça. Moi, mon père, ça n'aurait pas été là, je n'aurais pas été capable de partir. Mais c'est... Oui, il peut partir, mais pas dans n'importe quoi.
Tu penses-tu que ça, c'est une des barrières qui empêche genre les personnes qui veulent commencer puis commencer leur propre ferme de venir justement dans le domaine?
Non, si tu veux passer ta propre ferme, ben tu peux commencer tout de même, comme j'ai dit, dans le mouton, dans le chèvre, dans le bœuf. Tu peux commencer là-dedans. Si tu veux commencer à zéro dans le lait, non, ça se fait pas. Il y a des productions, à cause que tes marges sont trop petites, puis l'investissement qu'il faut que tu fasses, il est trop gros. Tu sais, comme je te parlais de Tim Hortons, j'ai 25 ans, je veux m'acheter ça, je veux bâtir. Oublie ça, là, t'es pas capable. Fais tes devoirs. Il y a des productions, tu pourras même pas commencer. Va voir des producteurs qui n'ont pas de relève. Travaille avec eux autres. 5, 10, 15 ans. Montre que tu veux. Puis il y a tout de même, c'est une minorité, mais il y en a qui vont dire, OK, regarde, tu veux vraiment, t'es bon, ça fait 20 ans de travailler avec moi, j'ai pas de relève, ben tu sais, je vais t'aider à partir. Ça se fait.
OK.
Mais, tu pars à zéro, non. C'est de valeur, mais commence en bas de l'échelle, là, puis mange tes croûtes, là. Mais, vas-y tranquillement.
Puis, donc, peut-être commencer sur une ferme, comme tu mentionnes, avec quelqu'un, où est-ce que lui a l'expérience, puis tout ça, puis vraiment apprendre à propos du domaine.
Oui.
avant de sauter à plein cœur dedans puis dire « OK, moi, je m'achète 40 terrains puis tout ça. »
Tu sais, ça a l'air beau, là, mais il y a de la gestion derrière de ça. Il y a du capital à investir. Comme moi, j'ai investi, ça fait 40 ans que je suis là-dedans. Mon père, il était là-dedans 40 ans. Puis j'ai investi tout le temps, mais je suis limité. Tout coûte cher aujourd'hui. Depuis la pandémie, c'est pire. Mais tout coûte cher, mais c'est important que tu y vas tranquillement, graduel. Tu sais, là, le terrain, il est cher, ben je n'achète pas. Je n'ai acheté à 20. S'il y a des opportunités, je ne dis pas non. Si un de mes enfants s'est intéressé, c'est pas la même game pantoute. Là. Quand tu as un jeune qui est intéressé, ben là, tu peux investir plus. Parce que tu investis, c'est minimum 30-40 ans. Si tu veux être là pour 5-10 ans, là, sors de la... va-t'en pas dans l'agriculture.
Il faut vraiment t'investir quasiment. T'sais, ça devient ton mode de vie à toi. Là. C'est...
Oui, puis c'est un beau mode de vie. Oui, il y a de l'ouvrage. Oui, il y a de la gestion. Oui, il y a des challenges à faire, là, puis il y a des embûches. Mais c'est ça que c'est quand tu es ton propre boss, là, c'est ça que c'est. Puis si tu aimes ça, tout le temps, te faire pousser, ben c'est une bonne job à faire. Puis c'est le fun parce que tu sais, on parle des côtés que ça coûte. Mais juste travailler avec la nature. C'est ça, c'est un méchant challenge parce qu'il y a plein d'affaires que tu ne contrôleras pas.
Ben non.
Fait que, tu sais, tu peux avoir investi 5 millions, ça va bien. Puis d'un coup, tu as une année comme qui, là, ça gèle au mois de septembre, puis ta récolte, tu perds 30%, 40%. Ben, tu peux pas investir tant que tu voudras, là. C'est la nature. Là.
C'est elle qui a décidé, bon, regarde, tu as investi telle affaire, moi je m'en fous, regarde, il va faire froid, ça va geler, ça va geler.
Ouais, tu sais, si tu arrives au mois de septembre, ça gèle, ton maïs arrête, tu viens de perdre 30% de ton volume. De ta pesanteur, tu viens de payer 30% de ton revenu là, pour une gelée. Là. Fait que même si tu as investi et ton plan d'affaires marchait bien, ben faut que tu deals avec la température. Puis ça, c'est en agriculture, c'est pas qu'il y a des changements climatiques, c'est tout le temps différent. 40 ans que je fais ça, puis je peux dire, il y a un printemps ou deux qui est différent. Là. Mais ton année totale, il y a tout le temps quelque chose de différent. Pis c'est ça que. Ben, c'est le fun. Moi, j'aime ça. C'est un méchant challenge, mais c'est le fun.
Ça, c'est quelque chose aussi qui peut peut-être faire peur à certaines personnes aussi. Il est comme, ouais, j'aimerais me lancer en agriculture, mais là, c'est comment tu sais que est-ce que tu vas avoir une bonne récolte? Est-ce que je sais que mes affaires vont arriver comment moi je les veux? Tu sais, c'est cet incertain-là. Tu penses que ça joue dans la balance de certaines personnes?
Oui, ben, j'ai pas du monde qui travaille au gouvernement. Puis je dis, regarde, sors de là, puis tu peux aller dans le privé. Ah non, je veux ma sécurité. Tu sais, puis dans l'agriculture, on a des petits problèmes d'assurance, on a des programmes un peu qui nous aident, mais c'est le côté entrepreneur qui embarque dessus. Tu sais, l'entrepreneur qui commence n'importe quel business, il prend des chances. Puis oui, si tu n'es pas paré à avoir ces challenges-là, ces chances-là, ben reste un job que d'un ouvrage que tu... gouvernement, que ce soit d'une compagnie privée, n'importe quoi. Puis oui, c'est vrai, parce que C'est un méchant challenge à faire. Là. Parce que tu dis, OK, là, j'embête dedans, là, c'est 20 ans. Là, tu sais, là. Puis il va y avoir des bons côtés, puis il va y avoir des côtés, c'est moins bon, des années moins bonnes.
Il y a des années que tu as hâte que le printemps revienne, puis t'as d'autres, t'es comme, oh!
C'est le printemps. Tu sais, au printemps, ah, tout est beau. Puis là, wow, il fait frette, puis c'est sec, puis il mouille pas. Là, t'as qu'à ton maïs, d'avoir ton soya, ton foin. Et cette année, ça mouille, mais ça pousse. Tu sais.
Mais des fois, trop d'eau, c'est comme pas assez d'eau non plus.
Oui. Tu sais, quand on reçoit 2 pouces, 3 pouces, c'est trop, là. Mais, comme que j'ai parlé des agriculteurs, là, ils vont changer leur manière de drainage de surface. Pour que l'eau, quand l'eau va tomber de main, ça va être plus vite d'un fossé. Ils vont faire sûr qu'on faisait le drainage souterrain à 50 pieds entre chaque drain. Là, ben, on le fait à 25. Fait que là, l'eau absorbe plus. Ta nappe d'eau a baissé. Fait que quand il mouille de même, c'est moins dur sur tes récoltes. Fait que là, le monde va investir dans les prochaines années, garantir le drainage souterrain puis de surface. Fait que, tu sais, c'est ah ben, OK, j'ai pas plané ça, mais j'ai pas le choix. Faut que je m'adapte, puis en tout cas, qu'il y ait des extrêmes en cours.
Puis, on parlait tantôt de la relève, puis aussi du manque de personnel. Qu'est-ce que tu penses, toi, personnellement, qui joue un gros effet là-dessus, ce manque de personnes-là?
Il manque du personnel parce que le monde n'a pas fait t'entendre enfin. Tu sais, on parlait comme on parlait à l'autre session. Il y a des familles de 10. Ça sort des familles de 1 puis 2. Puis autant d'ouvrages partout. tout le monde se bat pour avoir des employés. Fait que, que ce soit en agriculture ou dans les magasins, c'est non. Il manque de monde, puis il faut s'adapter. C'est pour ça que je dis, le voisin va mettre des robots de traite. Il va sauver deux employés. Fait que, non, il manque du monde, puis il n'y a pas de recette miracle pour ça. Quand tu as un bon employé, garde-les, traite-les comme il faut. Puis c'est pas juste le salaire qui compte, les vacances. Puis comment il est traité aussi, tu sais? Il y a des petits bonus qu'il peut avoir, puis... Donc, ça a fait mon engage du temps partiel. Jusqu'à cette heure, t'as le choix, donc pas de misère. Mais quand on est bon, ben, tu le traites une coche de mieux, puis la fois d'après, tu le rappelles, ouais, moi, il a été aidé. Fait que, non, il faut se battre contre toutes les compagnies, puis oui, il manque de personnel. Mais ça fait partie de la nouvelle réalité dans les années 2024, mettons, ou 2023.
Mm-hmm. Ouais, ben, puis il y a beaucoup de personnes aussi qui maintenant travaillent en ligne. Il y a aussi ce côté-là que les gens ont appris avec la pandémie, c'est que, ah, ben, je peux trouver un emploi en ligne puis tout faire de chez nous.
C'est ça. Fait qu'imagine-toi, celui qui travaille en ligne qui est correct, c'est une nouvelle manière de travailler. Mais les magasins qui sont dans le downtown Ottawa ou Montréal, whatever que ce soit, toute cette clientèle-là, il va là. Mm-hmm.
C'est vrai, c'est vrai.
Fait qu'eux autres, ils. Tu sais, mettons, wow, j'ai 50% de mon monde qui ne vient plus. Mais le loyer est pareil. Le prix de la nourriture est pareil, il a monté. Le prix de son chauffage, de son gaz a monté, mais j'ai 50% moins de clients.
Parce que les gens qui venaient les visiter durant leur heure de lunch ou après
leur
le travail.
Le 5 à 7, ils ne sont pas là. Mais celui qui travaille en ligne, moi j'aime ça. Parce que lui, il finit à 3 heures, puis je peux l'engager pour le soir. Mais quand il travaille en ville, il arrive à 6 heures le soir. Fait que là, il ne peut pas venir travailler.
Mm-hmm.
Fait que ça peut aider le côté agricole un peu. Parce que moi, les récoltes s'en viennent, là. Mais je vais essayer d'aligner deux personnes. Oui, ils travaillent en ligne. À 3 heures, ils ont fini. À 3h10, ils peuvent être chez nous. Ben, ils peuvent travailler 5 heures chez nous.
Mm-hmm.
Mais quand ils étaient en ville, ils ne pouvaient pas faire ça.
C'est vrai?
Ben moi, il faut que je m'adapte en conséquence de ça. Fait que mon gros de la journée ne sera pas le matin à 8 heures. Je vais travailler plus fort le soir parce que j'ai plus d'aide le soir.
Mais ça fait-tu une différence de prendre tes récoltes le matin ou le soir? Ou?
Non, excepté le soya. Le maïs, tu peux le faire toute la nuit si tu veux. Le soya, c'est pas la même histoire. Mais le gros de ton main-d'œuvre que tu as besoin, c'est surtout dans le maïs parce que ton volume est plus gros. Mais l'avantage, je peux récolter jusqu'à minuit et 1 heure. Fait qu'au lieu de commencer de bonne heure le matin à 8 heures, ben, je vais attendre un peu. Je vais commencer un peu l'après-midi. Quand la personne ou deux personnes vont venir m'aider le soir, ben là, je vais rouler plus tard la nuit pour le maïs.
Mm-hmm.
Fait que là, je voulais j'adapte en conséquence. Fait que moi, le travail à la maison, j'aime ça parce que ça me donne une personne ou deux pour travailler chez nous.
OK, fait que c'est intéressant comment que les fermes puis tous les magasins aussi s'adaptent parce que, tu sais, malheureusement, les magasins, ça roule moins bien. On les a vus dans les nouvelles à Ottawa en ce moment, downtown. En ce moment, ils sourient parce que les comptables, il faut qu'ils reviennent 3 jours par semaine au lieu de 2.
Ouais.
Mais il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça, mais eux, ils sont contents. Mais pour toi,
ça fait mon affaire. Puis je suis pas le seul de même. Là.
Mm-hmm.
Il y a bien en grande culture là, qui ont besoin d'aide. Ben là, tu vas shifter un petit peu ton chiffre un peu.
Mm-hmm.
Puis là, OK, gars. Il va venir, ben moi je vais récolter dans le jour tout de même, mais le soir, lui, je vais le mettre 5 heures pour travailler le terrain.
Mm-hmm.
Fait que moi, je pouvais le faire. Fait que là, j'ai cette personne-là qui va venir faire 5 heures le soir ou 6 heures, travailler du terrain, ben il peut me travailler 50 heures. Puis moi, le lendemain, je pouvais le faire. Fait que tu sais, faut t'adapter pour comment la vie est rendue. Fait que c'est bon. Lui, il aime ça. Parce que là, il dit 3 heures, j'ai fini, je relaxe, j'embarque sa machine, je peux relaxer. Jusqu'à 9h. Mais s'il est en ville, quand il travaille en ville, il est 6h30 avant qu'il revienne chez eux.
OK, puis quand tu es c'est sûr, c'est sur la machine, ça doit être. Ben, tu mentionnes que c'est relaxant.
Oui, ben, parce que ça, il y a bien des machines qui se mettent seules. Fait que moi, t'es dessus, tu checkes, t'arrives au bout, tu changes de chien, l'électronique est là, ça l'aide à la personne. Fait que quelqu'un qui est moindrement bon en électronique, il est capable, ben, si côté mécanique il est bon aussi, là, mm-hmm. il peut le faire. T'sais, j'ai des étudiants qui vont aller au collège. Ben OK, toi, tu finis à midi parce que tu as un cours juste avant midi. Ben, tu peux venir m'aider le soir.
Puis ça leur gagne, puis ils gagnent de l'expérience avec ça s'ils veulent aller en agriculture.
Ben oui, parce que qu'est-ce que tu vois dans le livre par l'ordinateur sur YouTube, c'est pas la vraie vie. Des fois, ça l'est, mais des fois, quand tu l'as, c'est toi qui es dedans, tu dis « Wow, c'est pas pareil. Ah ben oui, je veux vraiment le faire.
Mm-hmm.
Non, c'est pas pour moi. »
Ben, c'est ça.
Parce... Nous autres, on avait un employé qui est venu, puis j'avais du lapin. Ah, c'est beau, le petit lapin. Après, quand elle a fait 2 mois, elle a dit non, le lapin, c'est pas pour moi. Les animaux, c'est pas pour moi, parce qu'il faut que je sois là tous les jours, toute l'équipe. Mais elle a réalisé que c'est pas une. Là, elle est partie dans le côté vétérinaire, mais c'est pas la même affaire que 7 jours par semaine, matin et soir. Fait que le monde réalise ça, puis c'est bon que les gens y aillent. C'est de valeur que les gens n'y aillent pas plus que ça dans l'agriculture parce qu'ils pensent en cause, comme le stéréotype qu'on disait l'autre jour, là. Mais il y a des. Pas juste les fermes, les compagnies d'engrais, les compagnies de semences, les compagnies de machines, ils cherchent du monde.
Oh oui, ils cherchent du monde, puis c'est pas juste le stéréotype non plus de « j'ai pas besoin d'aller à l'école » ou « cette personne-là est pas bolée » ou quelque chose comme ça.
Ouais.
Non, c'est...
Notre chose pour les machineries agricoles, ils cherchent des mécaniciens, mais le mécanicien, il y en a un qui ça fait 20 ans qu'il est là. Tous les hivers, il faut qu'il apprenne des cours pour se mettre up-to-date la nouvelle technologie. Fait que les jeunes, moi, j'en ai un qui l'a envoyé là-bas, là. Il a fait tout l'été, là. Mais là, il est au collège en mécanique, puis il s'en va après ça en agriculture. Il dit « waouh, c'est le fun! » Et avant qu'il l'essaye, il ne savait pas. C'est ça qui est de valeur que les jeunes, ils ne se donnent pas la peine. Oui, ça va être dur l'été que tu vas le faire parce que tu n'es pas habitué. Mais au moins, si tu vas vu vraiment si tu aimes ça ou si tu n'aimes pas ça.
Mais est-ce que tu mentionnes cet étudiant-là qui est allé aider avant d'aller au collège puis tout ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'endroits comme ça sur les fermes que les gens peuvent aller essayer, comme le côté mécanique, genre?
Oui, oui. Il y a beaucoup de places. Puis même les garages, ils prennent des étudiants. Puis les fermes, oui. Puis oui, c'est des jobs, c'est plus dur. Puis des fois, tu regardes l'ouvrage, ouais, c'est donc bien plate. Non, mais ça fait partie. Il y a pas une, c'est comme toi, c'est pas tout le temps rose tout partout.
Ben non, c'est ça. Il y a toujours des... Il y a toujours des bons moments durant la job, mais il y a toujours aussi des parties que tu vas moins aimer parce qu'il n'y a pas... une chose parfaite.
C'est ça. Il n'y a pas de parfaite. Fait que si tu ne l'essayes pas, tu ne le sais pas.
Puis les gens que vous engagez, vous avez mentionné comme des étudiants qui sont au collège puis tout ça, mais quelqu'un qui voudrait essayer ce métier-là ou être le mécanicien avant d'aller au collège, est-ce que c'est une opportunité que la personne pourrait avoir ou il faut vraiment qu'elle soit étudiante aussi?
Non, ils peuvent y aller. Avant, mettons, ils sortent du high school, il y a d'autres choses, il veut changer un changement de carrière, puis il vient, puis il l'essaye. J'ai quelqu'un qui est venu essayer, puis il s'est aperçu que c'était pas pour lui les machines. C'était juste venu travailler les champs, puis c'était pas pour lui. Mais il l'a essayé. Le gars, c'est pas un jeune, là. Puis le jeune va faire, essaye-le. Si tu l'essayes pas, tu le sais pas. Puis il y a, la plupart des agriculteurs, si t'as la personne a du cœur, que ce soit un gars ou une fille, là, qui ont du cœur, ils vont y prendre, vous les engager. Puis on cherche tout le temps quelqu'un. Mais la seule affaire, il faut que la personne qui arrive là, elle ait le cœur à la bonne place, vous dire oui, là, je m'en viens cet été, oui, je vais travailler, oui, je vais avoir des fins de semaine off, mais d'autres, je ne pourrais pas, il faut que je travaille. Quand c'est le temps de récolter, c'est le temps de semaine, il n'y a pas de fin de semaine off.
Ben non.
Mais il y en a qui ne comprennent pas. T'sais, il y en a qui arrivent, non, moi, je ne veux pas travailler les fins de semaine. Ben, t'es pas à bonne place.
T'es pas dans le bon.
C'est tout. Il est parti, puis il n'y a pas eu de mauvais à rien. C'est juste te réaliser que c'est pas ta place. Fait qu'il dit, ouais, c'est vrai. Puis il y en a d'autres qui l'ont dit, puis ils aiment ça, puis ils capotent ça. J'ai une fille. Il y a des filles à cette heure qui sont rendues aussi bonnes que des gars. En agriculture, c'est plus une job de bras. Une fille peut faire aussi bien qu'un gars.
C'est vrai.
Fait que à côté de technologie, les femmes sont plus précises, sont plus patientes que les gars, même si on n'aime pas ça. Là, mais c'est...
Faut l'admettre quand même.
Ouais, j'étais en France pour le lapin. 90% des travailleurs, des éleveurs de lapins ou de doigts ou de canards, c'est des femmes. Parce qu'elles sont plus précises que les hommes, sont plus minutieux. Nous autres, on est bons pour d'autres choses. Puis c'est correct. Il y a des gars qui sont bons et tout. Là. Je dis pas que c'est... j'ai 3 filles puis 2 gars, puis un ou l'autre, il y en a qui sont bons, d'autres sont moins bons pour d'autres choses.
Ben oui, chaque personne est faite différente. Puis chaque personne aussi a différent, en bon français, le skill set. Oui,
c'est vrai. Il y a des personnes que tu peux mettre avec des animaux, c'est dans eux autres.
Oui.
Puis d'autres, tu vas le mettre dedans, puis il ne veut rien savoir. Mais cette personne-là, mais là, c'est une machine. Alors, toi, de là, il donne un heure, puis il peut faire des flips avec la machine, quasiment. Là, il peut faire n'importe quoi. Comme tu dis, le skill set, il y en a qui l'ont, puis d'autres, ils ne l'ont pas.
C'est pour ça qu'il faut peut-être l'essayer. Puis en ce moment aussi, pour passer à un autre sujet, tu avais mentionné que le personnel immigrant aussi, qui rentre beaucoup en question maintenant pour combler ces trous-là.
Oui.
Il y a récemment eu une nouvelle qui est sortie que Justicia for Migrant Workers voulait des changements pour les immigrants qui travaillent sur les fermes. Puis ils ont envoyé aussi une lettre au gouvernement provincial. Tu voulais-tu en jaser un petit peu? C'est-tu un problème ou c'est...
C'est pas assez... Je pense que c'est rien qu'une personne ou deux qui ont sorti ça, là, c'est une association. Mm-hmm. Le monde ne réalise pas que le travailleur étranger qui vient ici, là, si tu t'en prends pas soin, il ne reviendra pas. Puis il y en a, ça fait 15 ans qu'ils reviennent ici parce que quand ils retournent dans leur pays, ça l'aide à leur famille, à leurs enfants. Mm-hmm. C'est la même chose que quand je t'ai parlé pour de l'engrais. Là. Le travailleur étranger vient ici, t'en prends pas soin, il va le voir ailleurs, puis il n'y aura pas de misère à se trouver un autre job. Fait que c'est aucun avantage au producteur, à l'employeur de maltraiter son employé. Que ce soit travailleur étranger ou quoi. Puis les agriculteurs là, sont assez fiers de les avoir, ces gars-là, parce que ça veut travailler. C'est titre pour 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ça veut travailler. Puis quand c'est le temps de récolter, c'est le temps de récolter. Des fois, il ne fait pas beau, il fait trop chaud. Oui, quand il fait bien chaud. Mais il faut se mettre dans le contexte que...
Si tu
viens du Mexique, du Guatemala, ces places-là, c'est normal qu'il fait chaud. Nous autres, on n'est pas habitués à ça. Mais eux autres, là, pour eux autres, ils regardent ça. Ah, je suis bien. Mais allez pas à moins 30, c'est là. À moins 30, pour le petit gars, pauvre gars ou femme, il va geler tête. Nous autres, à moins 30, bof, on continue. Mm-hmm. Tu sais, j'étais en France, puis je parlais avec un Vietnamien. Puis il se demandait comment qu'on pouvait faire vivre à moins 20, à moins 30. Il faisait zéro cette journée-là quand j'étais en France. Il y avait un gros côte, il était gelé tête. Moi, j'avais un petit gilet. Fait que quand le travailleur immigrant vient ici, il vient de ces pays-là, il est habitué à avoir chaud. Fait que lui, il est steady, il en fait tout le temps. Fait que, non, je pense qu'ils ont voulu se faire de la publicité, je ne sais pas pourquoi, parce que j'en connais qui ont des travailleurs étrangers, ils en prennent soin, ils coûtent cher, mais c'est ton gagne-pain. Mm-hmm. Fait que tu n'as pas besoin du gouvernement de te mettre d'autres lois, il y en a déjà assez. Le gouvernement réalise, là, le producteur, c'est lui le premier à parler. Tu sais, fais travailler ton gars, il tombe à terre, puis il ne peut plus rien faire pour une semaine. Tes asperges ont poussé, ils sont plus bonnes. Tu as gaspillé ta récolte. Mm-hmm. Moi, je donne ça comme exemple. Fait que, non, tu en prends soin, tu amènes de l'eau. Oui, c'est trop chaud. Ben, la grosse, on va prendre un break, on va travailler le soir. Mm-hmm. Puis c'est ça qu'ils font. Fait que, non, ils sont pas maganins. Puis, faut. Je l'ai entendu parler de ça, mais non, c'est pas.
Oh, et puis. Aussi, ça doit être la. Tu sais, c'est pas juste les travailleurs étrangers, mais aussi les immigrants, ceux qui cherchent à venir vraiment s'établir au Canada avec leur famille aussi. C'est aussi des personnes qui viennent nous aider, pas nécessairement juste sur les fermes, mais partout.
Ouais.
Puis c'est des gens aussi qu'il faut apprécier.
Oui, parce qu'ils remplissent un besoin.
Oui.
Tu sais, ils viennent, que ce soit l'histoire que ça voudra, là, ils remplissent un besoin. On a de besoin parce qu'on ne fait pas assez d'enfants. Non, tu n'as pas le choix. T'sais, à 1,6 de population de natalité, là, tu ne renouves pas ta population. Mm-hmm. Le baby boom, il vieillit et tout. Hein?
Oui.
Ça fait que 15 autres vont partir. Là. Dans les autres 5 ans, 10 ans, là, ils travailleront pas tout eux autres. Tu as besoin du monde pour prendre leur place. Ça ne paraît pas, là, mais quelqu'un qui lâche, qui a l'expérience de 30 ans, 40 ans derrière, là, tu vas en avoir moins de 2 prendre sa place. Puis cette expérience-là, ça ne s'appellera pas dans un nez.
Ben non.
Fait que c'est ça, il faut que le monde comprenne. Là, parce que le baby boom, il y en a qui travaillent encore, ils ont 65, 70, 60 ans. Mais quand ils vont être rendus, ils vont dire c'est assez. Hein. Mais cette personne n'en parle. Là. Elle a 40 ans d'expérience en arrière de... Remplace-moi après. Ça se fait pas en criant à lapin, là, ces affaires-là. Là. Fait que, puis même si tu as le travail étranger, tu vas en avoir besoin et tout parce que on doit 2 prendre sa place à lui. Là. Fait que t'as pas le choix.
Puis des fois aussi, ben, ces travailleurs étrangers-là arrivent déjà avec un bagage d'expérience.
Oui. Puis des fois, les autres vont arriver avec une manière différente de faire. Mm-hmm. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon?
Pourquoi pas l'essayer?
Tu l'essayes. En agriculture, c'est pour moi, les travailleurs étrangers, je vais essayer une nouvelle sorte de maïs. Elle peut bien faire cette année, puis d'autres années, elle fera pas bien. Mm-hmm. Fait que les travailleurs étrangers, il va arriver avec quelque chose, c'est, oui, tu as des bonnes idées, tu as des idées, baf. C'est pas si bon, mais ça fait partie de la game.
Puis toi, t'inviterais-tu, où est-ce que les gens pourraient avoir de l'information pour trouver des endroits, des emplois peut-être qu'ils cherchent ou commencer leur propre ferme, comme on en avait jasé tantôt, oui, et comme producteur de lait, c'est peut-être pas faisable au début, puis tout ça, mais qui voudraient peut-être lancer en entrepreneuriat puis commencer leur ferme.
tu peux aller voir des associations comme l'Union des cultivateurs, la Fédération de l'agriculture, Grain Farmers of Ontario, ils ont des bonnes choses. Le ministère de l'Agriculture de l'Ontario, du Québec, ils ont des bons sites que tu peux aller voir dessus. Mais commence local, va cogner aux portes d'associations de même, puis ils vont te diriger vers des places que tu peux regarder. Il faut que tu commences en bas, là, puis tu cognes. Mais ces places-là, si tu vas, si tu t'informes un peu à ces associations-là, puis le ministère de l'Agriculture, il y a des bonnes choses et tout, là. Puis tu es ouvert d'esprit, tu devrais être correct. Tu vas pouvoir te trouver quelque chose.
Et mon dernier, ma dernière petite question pour toi, c'est si tu avais une chose à changer pour aider à la relève, aider aussi qu'il y ait plus de travailleurs sur les fermes puis tout ça pour combler ces postes-là, ça serait quoi?
C'est que le gouvernement fédéral ou provincial, là, et excuse le langage, qui nous fiche la paix, met en cause plus de lois, plus de taxes, plus d'affaires en même. J'aimerais ça qu'ils comprendraient qu'on est là pour le long terme. On n'a pas besoin de se caler qu'eux autres viennent nous taper sur la tête. Il y a déjà des lois, c'est assez déjà bon. Qu'ils nous resteraient tranquilles, puis que quand ton jeune veut embarquer sa ferme, là, qu'ils ne te mettent pas les bâtons dans les roues. Là. Qu'ils donnent un break sur l'impôt. Parce qu'à long terme, il va être regagné parce que le jeune va embarquer, il va investir, puis il va se garocher dedans, puis le travailleur étranger et tout. À long terme, le gouvernement ne perdra pas. Si vous voulez nous laisser tranquilles sur ce côté-là, là, moi, je serais bien content. Puis l'agriculture, n'importe qui, je pense, se porterait en bonne condition. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, tout se sait tout partout. C'est pas comme dans les années 50, puis ça fera moins. Mais si le gouvernement peut comprendre ça, là, on a un bon bout de fait.
Un bon bout, puis aussi, ça, les gens, ben, il y aurait moins de bâtons des roues pour justement rejoindre les fermes, puis aussi peut-être en commencer d'autres.
Oui. Tu sais, un travail étranger, un de mes amis, il en fait venir. Là. Hey, il y a du paperwork à faire là-dessus. Là. Puis le gars, ça fait 5 ans qu'il vient. Là. Tu sais, pourquoi tu fais faire un paquet de... Puis le gars, il parle, non, je vais revenir là, je suis bien traité, puis ma famille, tu regardes dans ces pays-là, puis je sais pas c'est quoi le pourcentage qu'ils remettent tout l'argent là-dedans. Ça fait augmenter le niveau de vie là-bas. C'est bon, tout le monde. Là. Pourquoi? Puis il n'y a pas de... Il y a des jeunes, mais il n'y en a pas assez pour tout combler. Fait que faut prendre à quatre parts. Puis le gouvernement pourrait le comprendre, ce serait le fun.
Ceci était la deuxième partie de Go FM et dans le pré avec Michel Dignard. Écoutez le prochain épisode pour la suite. Cette émission a été rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.